Le fait de faire à un moment, de se confronter au faire, c'est un moyen de prendre conscience de la valeur des choses.
Bienvenue dans le podcast Activer l'économie circulaire.
Je suis Brieux Saffré.
Je suis Justine Laurent.
Nous sommes fondateurs de l'agence de conseil et design circulable. Nous travaillons avec les entreprises, collectivités et entrepreneurs pour concevoir leurs stratégies, produits et services et ainsi apporter des solutions aux enjeux de ressources et de résilience des territoires.
Dans ce podcast, nous partons à la rencontre d'entrepreneurs, de dirigeants ou de porteurs de projets qui appliquent les principes du vivant et la pensée systémique pour concilier développement économique, inclusion sociale et régénération des écosystèmes.
Vous pouvez nous retrouver sur le site circulab.com ou sur les réseaux sociaux.
Vous pouvez aussi vous abonner au podcast pour rester à jour sur les meilleurs exemples d'économie régénérative.
Bonne écoute à vous.
Alors bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Elsa Monségur, donc qui est fondatrice de la textilerie, qui est un lieu dédié au textile éco-responsable dans le 10e arrondissement de Paris. Donc déjà Elsa, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui,
avec grand plaisir.
Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter ?
Alors, je m'appelle Elsa Monségur, j'ai 33 ans, je suis la cofondatrice de la textilerie, qui est un lieu dédié au textile. Je viens pas du tout du monde du textile, plutôt du monde de l'entreprise. J'ai bossé avant de monter la textilerie pendant 6 ans dans différentes entreprises, plutôt dans la partie web e-commerce. Et donc, la textilerie correspond un peu à un projet de seconde vie professionnelle, on peut le dire comme ça.
Ok. Très bien. Et du coup, comment t'en es arrivée à ce que tu dis que c'est pas le milieu initial dont tu viens, en tout cas professionnellement parlant?
Ouais.
Comment est-ce que t'en es arrivée à te diriger aussi bien vers l'éco-responsabilité que vers le textile, que vers quelque chose d'associatif? Enfin, comment c'est arrivé?
Ouais. Alors en fait, donc c'était enfin grosso modo, donc j'ai travaillé pendant 6 ans dans différentes entreprises et c'est vrai que très vite et souvent revenait la question du sens, de pourquoi je fais ça, quels sont mes objectifs, quels sont les objectifs de l'entreprise. Et je pense qu'il y avait un problème un peu d'alignement. Et fin 2015, en fait, j'ai eu l'opportunité de quitter un job dans des bonnes conditions suite à une réorganisation dans cette entreprise. Et je me suis dit, bon, je saisis cette opportunité pour pouvoir mettre les choses à plat et réfléchir. Donc c'était un peu un moment un peu vertigineux pour moi parce que je ne savais pas du tout ce que j'allais faire ensuite, si j'allais rester dans le monde du salariat et plutôt du web ou si j'allais monter quelque chose. J'avais toujours eu en tête l'idée d'avoir un lieu un peu pluridisciplinaire où il se passe quelque chose, enfin différentes choses, où je puisse aussi mettre un peu de moi et créer un univers, mais ça restait très flou. Et il se trouvait qu'à ce moment-là, ce moment était vraiment propice à des tonnes de questionnements et également des questionnements sur ma façon de consommer, mon rapport aux choses, puisque j'allais me retrouver au chômage aussi avec moins d'argent. Je me suis dit, bon, voilà, c'est un peu peut-être le moment de faire l'état des lieux sur la façon dont je consomme. Et ce qui était clair, c'est que je consommais énormément de fringues. Ça, j'ai toujours aimé les vêtements et j'ai toujours aimé les vêtements de seconde main et j'ai toujours aussi aimé les vêtements de ce qu'on appelle la fast fashion, donc Zara, H&M. Produits dans des pays très lointains, à bas coût, et surtout voilà de la fast fashion qui sans arrêt produit des nouveautés. Et donc moi j'étais à fond dans ce système. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, fin 2015, je me suis rendu compte que c'était quelque chose d'un peu malade de consommer autant, de ne pas porter. Et comme j'avais une machine à coudre que j'avais jamais utilisée, que j'avais récupérée de ma mère, et que j'étais un peu bricoleuse par ailleurs, je me suis dit, bon tiens, au lieu de ne pas les porter, de les laisser dormir dans le placard, si j'essayais de les transformer. Et c'est un petit peu comme ça que j'ai appris à coudre, un peu d'abord en bricolant, que je me suis rendu compte que c'était un savoir-faire, que ça prenait du temps. Aussi, j'étais aussi satisfaite d'arriver parfois à des résultats pas trop mal. Et puis, au fur et à mesure que j'apprenais à coudre en transformant des vêtements, je me suis aussi intéressée aux matières que j'utilisais, aux différentes fibres, comment elles sont produites, ensuite comment on fait des vêtements, dans quelles conditions, à toute aussi la partie donc technologie textile, mais aussi la partie industrie. Je me suis rendu compte des impacts en lisant, des impacts désastreux de notre mode de production et de ce système de la fast fashion qui est clairement dominant dans l'industrie du textile aujourd'hui. Et je me suis dit, tiens, je me suis rendu compte de tout ça en faisant. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire pour aider les gens à prendre conscience en proposant en faisant que les gens puissent faire, quoi. Enfin, en créant un cadre qui permet aux gens de faire et aussi de récupérer. Et donc, a commencé à germer l'idée de créer un lieu où on puisse récupérer des textiles et aussi fabriquer, faire, transformer. Donc, avec aussi une partie atelier. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais assez inspirée par la Réserve des Arts, donc qui collecte et donne vie à des matériaux qui sont ensuite destinés à être transformés pour des projets artistiques ou culturels. Et je m'étais dit, ah, mais pourquoi ne pas faire quelque chose comme ça, mais dans le textile? Et ensuite, je me suis rendu compte aussi que c'était un boulot très logistique et que moi, ce que j'avais vraiment plus envie, c'était de faire un lieu d'accueil, quoi. Un lieu où les gens puissent venir et que c'était plus ça qui m'intéressait plutôt que la partie logistique. Et donc, j'ai commencé à rencontrer un petit peu des gens qui étaient liés au textile ou au réemploi avec cet embryon de projet. Hein. Et à un moment, on m'a dit, tiens, il faudrait que tu rencontres Alice Merle, qui est la directrice de Modestime. Donc, Modestime, c'est un atelier d'insertion par la couture qui est basé à Lille-Saint-Denis, donc pas très loin de Paris, et qui utilise la couture comme outil pour valoriser des personnes. Et là, en l'occurrence, des personnes qui sont assez éloignées de l'emploi et qui vont être accompagnées pendant 2 ans vers la reprise d'une formation ou d'un boulot ensuite pérenne par le moyen de la couture. Donc, c'est un atelier qui va produire des collections pour des créateurs. Et donc, on se rend compte, je lui parle de mes idées de projet et ça lui parle vraiment directement. Et elle me dit, ah, mais tiens, on pourrait créer un lieu ressource, effectivement, où on peut faire, avec un atelier où les gens peuvent apprendre et aussi faire, effectivement, avec la partie recyclerie, enfin, réemploi, revalorisation de matière, mais aussi, pourquoi pas, avec des créations de créateurs qui essaient de faire les choses bien. Nous, on en voit plein, ils ont du mal à distribuer. Puis nous, on travaille beaucoup avec des tissus bio et à Paris, on peut pas en acheter. Enfin, il faut les acheter sur Internet et le tissu, on a besoin de le toucher. Donc on s'est dit, ah ben tiens, ce serait vraiment un lieu ressource qui regroupe les activités clés de la filière. Donc c'est vraiment comme ça que la textilerie est née, de par mon parcours et celui d'Alice, et on s'est rencontrés pour un déjeuner, et vraiment les bases du projet de la textilerie sont nées de ce projet. Ensuite, il a fallu 2 ans pour le monter, mais c'est vraiment lors de ce déjeuner que les bases ont été jetées.
Et du coup, toi, c'est, par rapport à ta vie d'avant, entre guillemets, il y a quand même des ponts qui ont été faits. Est-ce que c'est un changement de vie et de aussi bien personnel que professionnel total, ou est-ce que tes expériences passées t'ont aussi été utiles? Enfin,
Alors, c'est un gros changement par rapport à ma vie d'avant. En revanche, c'est un changement que j'ai vécu avec une grande facilité.
Progressivement
aussi. Ouais, peut-être progressivement. Il y a eu quand même tout le montage de la textilerie pendant 2 ans où je travaillais sur ce projet sans savoir si il allait voir le jour, mais parce que il y avait la question du local, est-ce qu'on trouve un local, etc. Mais du coup, voilà, ce changement, j'ai l'impression de l'avoir fait avec facilité. Et ce qui est certain, c'est que je pense que oui, je me sers de choses que j'ai appris avant. Effectivement, j'ai une spécialisation en marketing et j'ai travaillé dans la communication aussi. Donc oui, effectivement, ouais. Je pense que ça me sert. Ouais.
Et du coup, Alice, elle a cette expertise. Enfin, pour le coup, le côté plus textile, matière et autres que toi, t'as acquis en autodidacte, c'est quelque chose qu'elle, je suppose, qu'elle avait aussi, et c'est ça aussi qu'elle a apporté en termes de...
Alors Alice, elle a apporté effectivement cette expertise couture, textile, et aussi cette expérience du monde associatif.
D'accord.
Parce que effectivement la textilerie est une association, et donc Alice, à Modestime, qui est une association, l'a créée avec d'autres personnes en 2011, donc elle a une certaine expérience dans la vie associative. Donc elle a apporté effectivement ces deux dimensions.
Et du coup, petite question idiote, bon, on en parlait tout à l'heure en off, mais qu'est-ce qui a fait que, donc je suppose que c'est ce rapport à l'humain, mais tu pourras me le confirmer, que vous êtes dirigé plutôt vers une structure associative et pas vers une structure, enfin nous typiquement on est une SAS, on travaille après quand même sur des enjeux d'économie circulaire et qui concernent, on va dire, le plus grand nombre. Donc qu'est-ce qui a fait que plutôt l'asso et pas...
Alors on s'est longtemps posé cette question en fait du statut, et d'ailleurs avec Alice on s'est rencontrés en mai 2016, et l'association a été créée, enfin on a créé un statut 1 an plus tard. En fait, ce qui a fait qu'on s'est tourné vers le secteur associatif, c'est que il était très clair que dès le départ dans notre projet, la mission environnementale et sociale était prégnante, vraiment. Et aussi l'idée qu'il fallait que le projet vive, même si un jour moi je peux faire autre chose, Alice peut faire autre chose, etc. Donc on voulait vraiment que ce soit un lieu qui effectivement qui existe parce qu'on le met en œuvre, mais qui ensuite puisse peut-être continuer
sans vous, quoi.
Enfin, voilà, même si c'est pas du tout ce qui va se profiler là maintenant, mais dans l'idée, voilà.
Quelque chose d'assez naturel. Et...
C'est quelque chose d'assez naturel. Après, on verra. Hein, on peut toujours transformer une association en coopérative. Puis c'était aussi le plus simple à créer. Alice avait déjà de l'expérience dans l'associatif.
Okay.
Voilà, toutes ces raisons ont fait qu'on a choisi ce modèle-là.
Et du coup, aujourd'hui, toi, c'est ton boulot à plein temps, quoi.
Ouais. Et du coup, c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte dans le modèle associatif. C'est-à-dire que maintenant que je suis salariée de la textilerie, je suis plus la représentante, je suis plus la dirigeante. Donc, la textilerie a un bureau dont Alice est présidente et moi, je dépends de ce bureau-là. Donc, c'est aussi quelque chose à prendre en compte quand on se lance aussi dans le modèle associatif. Mais à la limite, je trouve que ça va très bien avec cette idée que le projet peut continuer aussi au-delà des personnes.
Ok. Comment ça fonctionne, du coup, concrètement, la textilerie? Parce que, puis c'est un public, le public visé, il est aussi assez, assez large, je crois.
Ouais. Alors, en fait, on a différentes activités, et donc, du coup, on touche différents publics. Nous, notre volonté, c'était vraiment de toucher le public le plus large possible, en proposant différentes solutions qui peuvent être adaptées à différentes motivations et surtout à différents budgets. Donc, on va avoir l'activité de cours de couture. On donne des cours qui sont payants. Là, c'est plus un public, alors c'est vrai, féminin, entre 25 et 45 ans, avec effectivement un certain budget parce que les cours sont payants. Mais à côté de ces cours, on propose des permanences Repair Café où les gens peuvent venir apprendre à réparer, faire des petites retouches sur leurs vêtements. Et là, c'est gratuit. Donc là, le public est beaucoup plus varié et aussi à l'image de notre quartier d'implantation, donc le 10e entre la gare de l'Est et la gare du Nord. Sur la partie vraiment recyclerie, en fait, on collecte des vêtements et on essaie d'allonger leur durée de vie. Et il y a une partie qu'on va revendre à bas prix, c'est-à-dire que le prix moyen, c'est 5,50 €. Là, le public est super, super varié. On a des hommes, des femmes, des jeunes, des ados, des vieux, enfin, tout. Et vraiment, tout type de revenus, c'est vraiment super, super varié. Et ça, c'est une de mes plus grandes fiertés aussi. On a également une activité de redistribution gratuite, ce qu'on appelle les vestiaires solidaires. Donc là, c'est un public, des bénéficiaires d'associations avec lesquelles on travaille, donc le Carillon, qui sera avec les centres domicile fixe, l'Armée du Salut qui gère le Palais de la Femme. Donc là, c'est un public qui est un peu plus en difficulté, donc qui vient. Et après, on a les personnes, les habitants du quartier qui viennent boire un café, qui participent à nos événements, qui nous déposent des vêtements. Et après, on a un public plus de niche, qui est celui qui vient chercher du tissu bio. Donc, il y a un public, en général, qui sait déjà un peu coudre et qui est déjà sensibilisé parce qu'il vient chercher du tissu bio. Donc, nous, on vend du tissu bio certifié GOTS, qui est une certification qui porte à la fois sur le volet environnemental et social. Donc là, c'est effectivement plus une niche. Il y a pas mal de mamans aussi qui ont pris conscience à la naissance de leur enfant. Et aussi, parfois, c'est des gens qui sont pas forcément des couturiers, mais qui viennent chercher du tissu bio pour faire des choses fonctionnelles et zéro déchet. Des lingettes, des maquillantes réutilisables, des serviettes hygiéniques, enfin des choses comme ça. Et donc, qui viennent à la couture pour faire ces choses-là fonctionnelles dans une démarche zéro déchet. C'est aussi une partie du public qui vient chercher du tissu. Donc voilà, donc c'est assez varié.
Et après, je suppose, enfin c'est peut-être pas le cas, et arrête-moi si c'est pas le cas, mais de ce côté, finalement, on cible un large champ d'utilisateurs et de citoyens, donc principalement des femmes, mais du coup aussi quelques hommes.
Ouais.
Et surtout des personnes avec un pouvoir d'achat plus ou moins élevé. Je suppose que ça permet aussi à la textilerie et au modèle de s'équilibrer. Donc j'entends, les cours de couture vont être payants, peut-être pour les personnes qui ont les moyens. Mmh. Pour ceux qui n'ont pas les moyens, il y a aussi des alternatives qui sont, comme tu l'évoquais, le Repair Café, qui sont la vente de produits de seconde main et autres. Donc est-ce que je me trompe si je pense que le côté cible large est aussi bien des personnes de nouveau avec un pouvoir d'achat plus élevé et des personnes avec un pouvoir d'achat plus faible permet au modèle de s'équilibrer et permet du coup d'avoir une cohésion et une balance.
En tout cas, c'est ce qu'on recherche par cette imbrication et hybridité des sources de revenus, c'est justement d'arriver à l'équilibre. On n'y est pas encore, on a un vrai enjeu de pérennisation de la structure sur cette année et l'an prochain, mais c'est ce qu'on vise. Ce que j'ai obligé de préciser, c'est qu'on a au démarrage eu des subventions de la mairie de Paris, notamment de fonctionnement, qui nous permettent aussi de pouvoir lancer notre activité sereinement, mais ces subventions, effectivement, ont vocation à disparaître. Donc, il y a un vrai enjeu d'autofinancement et du coup, de s'autofinancer par différentes activités, des activités payantes qui peuvent compenser des activités non payantes.
Non payantes.
Voilà. Donc, c'est ce qu'on essaie de... Okay. Mais c'est un modèle en construction. Voilà.
Ouais.
Il n'y a rien de gagné là-dedans.
Mais OK. Et en plus, c'est hyper intéressant parce que très souvent, et dans l'associatif ou pas d'ailleurs, mais on est sur un ciblage assez, on va dire, bah justement, c'est ce qu'on appelle le ciblage. Donc on va s'adresser à tel, enfin, profil. On va s'intéresser ou on va cibler telle frange de la population, etc. Et je trouve que ce côté hybride, il est super intéressant. Et en fait, on se rend compte que les sources de revenus sont multiples et qu'elles vont s'adapter aussi au profil d'utilisateurs, de clients, mais pas que clients, quoi.
Ouais.
Donc c'est donc ça, c'est, je trouve ça super inspirant, quoi.
Après, ce qu'on aimerait aussi, parce que c'est vrai qu'effectivement pour le moment nos cours vraiment de couture sont payants et vraiment à un certain prix, mais on aimerait réfléchir à des moyens, alors soit d'intégrer le quotient familial, soit vraiment de proposer aussi une formation gratuite pour des personnes qui en ont besoin. Donc il faut voir comment, il y a des subventions, mais ça c'est quelque chose qu'on aimerait proposer, parce qu'on a eu des demandes de la part notamment des gens qui viennent au vestiaire, qui disent bah nous on peut aller aux cours de couture. Et on dit, voilà. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'on aimerait proposer, parce qu'en plus, il y a une vraie vertu dans le fait de faire quelque chose, son objet textile, un sac, un vêtement, ça prend plus de temps qu'un sac, mais c'est hyper satisfaisant, en fait. Et d'ailleurs, c'est tout le propos de Modestime, c'est d'utiliser la couture comme outil de développement personnel, en fait. Et pas que personnel, parce que dans le projet de Modestime, c'est aussi une idée de réinsertion dans la société. Et donc voilà, donc c'est vraiment un projet qu'on a envie de mener.
Et du coup, ce côté développement personnel, c'est quelque chose, toi, qui t'a du coup été aussi très utile d'un point de vue perso, ce rapport à la couture et ce...
Ah ben, complètement. Moi, je trouve que... en fait, quand j'ai commencé à... Alors d'abord, à transformer des vêtements. Donc pour transformer des vêtements, j'ai dû les découper, les déconstruire. Donc ce qui m'a un peu familiarisé avec la construction d'un vêtement. Et en fait, c'est très lié à l'architecture, en fait. Enfin, je trouve que... En fait, quand on se dit « Ah bah tiens, on peut construire ce vêtement » et on comprend que c'est fait de différentes pièces qui sont agencées ou qu'il faut agencer de telle façon pour avoir tel rendu, donc ça développe vachement les capacités en fait de visualisation, de modélisation. Et je trouve que du coup, quand on fait ça, on se dit « Ah bah tiens, bon, j'ai construit un vêtement, bah pourquoi je pourrais pas construire une maison ?» Bon, j'exagère un petit peu parce que je me suis pas mis, mais je trouve que ça donne du pouvoir, en fait. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que le fait de faire, et j'en parlais avec un copain qui a monté un atelier où on peut bricoler, etc. Et c'est vraiment cette idée-là que quand on fait quelque chose... Alors déjà, en plus, il y a un côté très méditatif. Hein, on a son attention qui est concentrée dans quelque chose et qui n'est pas éparpillée. Mais il y a aussi le côté... Ça développe nos capacités de compréhension et aussi de modélisation et donc d'action. Et je trouve que c'est un outil très fort.
Et puis je suppose qu'il doit y avoir aussi ce côté, alors le côté fierté, où finalement tu reprends confiance en toi, etc. Et je pense aussi cet aspect, en fait, surtout quand tu évoques la fast fashion, mais alors ça concerne le textile, ça concerne aussi beaucoup l'industrie agroalimentaire, mais ce côté, en fait, je ne subis pas ce qu'on met dans mes fringues ou ce qu'on met dans mon assiette, mais je suis actrice et... ou acteur et actif ou active face à ce que je choisis de porter ou ce que je choisis de manger, quoi. Et peut-être que ça, enfin, il y a cet aspect aussi où en fait finalement ça permet de rééquilibrer et de casser cette hiérarchie qui veut que l'industrie soit au-dessus et que du coup le consommateur en soit un peu victime. Et en fait, là finalement, c'est aussi tout ce qu'on appelle consommateur, mais
ah oui, effectivement, enfin, il y a enfin, notre idée, c'est effectivement sur ce problème de la fast fashion, l'industrie de la fast fashion, c'est d'attaquer par le volet du grand public, du consommateur, essayer de proposer des choses, des outils, des ressources pour qu'il puisse changer sa façon de consommer, même si évidemment on pense aussi que la responsabilité elle incombe vraiment au producteur. Mais donc du coup, et c'est l'idée que quand même le consommateur, le public peut avoir un pouvoir d'achat et qu'en leur donnant, enfin en donnant des outils, des ressources. Ben justement, c'est un moyen aussi de se réapproprier des choses, en fait, et de reprendre une sorte de pouvoir. Et c'est intéressant parce que dans les gens qui fréquentent nos cours, il y a différents types de motivations, mais il y en a une qu'on retrouve, et notamment, je pense à un homme qui a fréquenté nos cours l'an dernier pas mal. Lui, son objectif, il était clairement militant. C'était, j'ai aucun contrôle sur ce que je mets. Quand j'achète des fringues, j'ai l'impression que c'est fait dans des conditions vraiment horribles. Et du coup, mon objectif, ce serait de pouvoir être autonome là-dessus. Enfin, c'était un vrai enjeu d'autonomie.
Ouais.
Donc vraiment, parmi notre public, il y a des personnes aussi qui ont cette envie-là.
Ok. Et du coup, ce côté, donc tu disais, il y a quand même une des motivations qui est une motivation militante, écologique. Toi, quand tu as décidé de quitter le web marketing/e-commerce pour te dédier à ce côté humain, récupération, associatif et autres. Est-ce que c'est quelque chose qui a été plus ou moins bien accueilli par tes proches? Est-ce que tu as eu du soutien? Est-ce que tu as eu le droit à des remarques du type « ça y est, elle nous fait sa crise, elle va manger du quinoa et elle va arrêter de la viande et autres » ou comment ça s'est passé?
Non, ça a été vraiment plutôt bien accueilli. J'ai été très soutenue par ma famille, par mes amis qui sont aussi, enfin qui ont concrètement aidé au montage de la textilerie, à l'aménagement, enfin voilà, qui ont été très présents. Donc j'ai pas du tout eu de remarques de ce type là. J'ai été plutôt très soutenue et j'ai eu ensuite des avis très positifs sur le lieu, ce qu'on en avait fait, que c'était chaleureux, que ça nous ressemblait. Non, donc ça a été vraiment, vraiment chouette d'avoir ce soutien-là.
Et est-ce que, selon toi, ça inspire aussi, peut-être autour de toi, t'as reçu, c'est quelque chose que tu me disais tout à l'heure, mais du coup, des mails, des choses comme ça, de personnes qui disaient « Ah, j'aimerais bien se lancer ce projet ailleurs » et autres, c'est quelque chose qui
arrive. On a vraiment des retours très positifs des personnes qui fréquentent le lieu, et même des gens qui ont entendu parler du lieu, qui sont pas forcément à Paris, qui sont ailleurs en France ou même parfois à l'étranger, et qui ont des envies similaires, et donc qui nous contactent. Enfin, je suis très régulièrement contactée par des personnes qui demandent des conseils, qui veulent savoir un peu plus comment ça marche, parce qu'elles aimeraient lancer un projet similaire, alors soit exactement la même chose, soit un projet lié à la couture, au fait main, soit plus sur l'aspect réemploi textile, enfin voilà. Donc on sent que le voilà.
Et ça c'est quelque chose, bon c'est pas forcément une question d'ego, mais je suppose que ça doit être donc déjà gratifiant, et surtout d'avoir un projet qui est identifiable parmi le vaste secteur et monde du textile. Bah, à l'inverse de par exemple du monde du web ou du e-commerce qui est aussi très large, mais où il y a peut-être les projets sur lesquels tu travaillais étaient peut-être moins identifiables, là d'avoir quelque chose qui est identifiable avec gens qui disent ah donc c'est toi la textilerie et autres, ça doit être plaisant en fait, enfin ça doit être quelque chose qui
c'est très gratifiant. Non c'est sûr, ça fait enfin oui c'est très gratifiant et donc après moi je sais à quel point c'est important justement dans toute la genèse du projet d'avoir rencontré des personnes et que des personnes m'ont reçu pour parler de ce qu'elles faisaient. Donc du coup j'essaie en général, enfin dans la mesure du possible, de rencontrer les personnes ou de les appeler. Bon parfois il y a beaucoup de demandes, mais voilà, parce que je sais à quel point c'est important, et un des meilleurs conseils d'ailleurs qu'on m'ait donné, c'est rencontre des gens. Même si tu sais pas exactement ce que tu veux faire, ton projet pas bien ficelé, etc. Rencontre des gens qui font un truc qui te plaît ou qui te parle pour telle et telle raison. Et du coup, ça a été un excellent conseil. Donc du coup, j'essaie d'accorder du temps également.
Et du coup, de travailler dans quelque chose qui te plaît, ça a changé ta vie ou...
Ah mais ma vie n'a absolument rien à voir. rien à voir. Oh, et ça a complètement changé ma vie. J'ai une liberté que j'avais pas avant. Je travaille à 10 minutes de là où j'habite. Alors, c'était pas du tout pour ça qu'on a choisi ce local au Château-Landon, mais il se trouve que j'habite à 10 minutes. Et puis, moi, ce que j'aime aussi dans la textilerie, bah, déjà, je bosse avec une équipe de nanas super, enfin, super chouettes, et c'est génial de bosser au quotidien avec des gens chouettes et investis, enfin, donc voilà. Et puis, en plus, moi, ce que j'aime aussi dans le lieu, c'est que, comme à chaque fois, comme on reçoit, on collecte des textiles, on collecte tout type de choses, et à chaque fois, le lieu doit se réadapter, on doit adapter le lieu à ce qu'on reçoit, donc il y a beaucoup de métamorphoses, et moi, j'aime quand les choses changent et bougent, donc c'est chouette quand on a un lieu, voilà, oui, qui peut aussi, voilà, qu'on peut métamorphoser en fonction de ce qu'on reçoit. Donc moi, je m'éclate vraiment en faisant ça. Après, ça a aussi changé ma vie dans le sens où c'est aussi très prenant un projet comme ça. Donc il y a des inquiétudes. Enfin, j'y pense tout le temps. Parfois, je dors pas bien. Donc voilà, il y a aussi ce côté-là, voilà, lié aux responsabilités, à l'envie que le projet marche. Il y a une équipe salariée. Enfin voilà, donc voilà. Mais je regrette pour rien au monde.
Et c'est quelque chose, mais moi je connais bien aussi hein, ce côté, t'arrives pas à dormir, t'y penses, ouais. C'est très prenant. C'est, enfin, ça va, tu t'en sors, t'as des petits conseils par rapport à ça, je sais pas, la méditation, le lâcher prise.
J'arrive vraiment pas à méditer, mais alors j'aimerais vraiment beaucoup. Non, mais du coup je cours pas mal.
Ah, ouais.
Et non, et c'est surtout être entourée en fait de voilà, par exemple, nous dans notre financement, on a été financé en partie par Paris Initiative Entreprise, qui fait partie du réseau France Active. Donc, ils nous ont proposé un parrainage avec quelqu'un qui nous suit plus sur les aspects financiers. Et ne serait-ce que d'avoir ces rendez-vous mensuels avec quelqu'un qui, lui, il est plus sur les aspects financiers, mais quelque part peut être un peu le psy du projet. Ça, c'est super important d'avoir quand même des personnes. Et puis, le fait, moi aussi, d'avoir un bureau, donc avec Alice qui est présidente, trésorière, voilà, une secrétaire, etc. On se réunit tous les 3-4 mois. Ça aide aussi beaucoup, voilà.
D'accord.
D'avoir des personnes qui sont, voilà, qui me permettent de prendre un peu du recul.
Ok. Et du coup, pour revenir à cette question du fast fashion que t'évoquais en début d'interview, du coup, tu n'es plus consommatrice du fast fashion, t'as complètement arrêté. Est-ce que ce côté arrêt a été, enfin, tu l'as bien vécu quand...
Bah justement, quand j'ai eu toute cette prise de conscience, donc quand j'ai arrêté mon job fin 2015 et que je me suis mis à coudre, que je me suis vraiment rendu compte que ma consommation de vêtements avait quelque chose de malade, et puis ensuite je me suis rendu compte que produire autant de vêtements c'était malade, voilà, et c'est vraiment le mot qui m'est venu, j'ai décidé d'arrêter d'acheter du neuf. Donc je me dis, je vais acheter que en friperie, qu'en ressourcerie, que voilà, que chez Emmaüs. Je m'y suis tenue sur peut-être une paire de collants que j'ai acheté neuf, voilà.
Ouais, ouais.
Mais en plus de ça, ça n'a pas été un effort si compliqué pour moi parce que j'ai toujours aimé chiner, aller dans les friperies. Et puis ce que j'aime bien, c'est trouver des pièces aussi un peu vintage, donc qui ont été faites il y a longtemps, donc avec aussi une qualité qu'on a du mal à retrouver de façon abordable aujourd'hui. Donc non, ça n'a pas été trop difficile.
Et comment... parce que nous, on avait bossé avec Wita sur la question des ressourceries.
Ouais.
Et en fait, était évoqué donc, le fait que, d'un point de vue public, les ressourceries avaient beaucoup de mal, en fait, à se positionner et à attirer du monde pour la question qualité. Parce qu'en fait, pour la simple raison que... il y avait finalement des personnes qui apportaient de l'importance au neuf, au côté neuf, au côté marque, au côté tout ça. Donc, moi, je me demande, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous jouez, que vous avez considéré, comment, enfin, tu vois, ça se trouve, le public est aussi un public qui, initialement, comme toi, en fait, était sur le fast fashion, mais que vous avez reconverti en mettant en avant d'autres arguments. Enfin, comment est-ce que ça, vous l'avez vécu et...
Alors, je sais pas, le public, nous on fait partie du REFER, qui est le réseau des acteurs du réemploi francilien. Moi j'avais été bénévole dans une ressourcerie avant de lancer la textilerie. C'est vrai que je trouve que quand même une des forces des ressourceries, c'est d'avoir un public très 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 varié, et donc de tout niveau de revenus, enfin voilà, tout type d'âge. Après c'est vrai que ce qu'on entend souvent, en tout cas des gens qui entrent à la textilerie, c'est ah, c'est joli, ça fait pas caverne, ça fait pas, ça fait pas bordel, etc. Donc, effectivement, je me dis que, vu qu'on entend ce genre de remarques, ça peut être effectivement un frein pour des personnes, le côté un peu caverne d'Ali Baba de certaines ressourceries. Moi, je trouve que justement, c'est ce qui fait leur charme, mais j'entends justement que ça peut être un frein. Et c'est vrai que, alors, je m'étais pas dit en tant que tel, il faut que le lieu soit beau pour lever ce frein, parce que je l'avais pas spécialement identifié comme un frein, puisque moi-même, c'est justement le côté que j'adore. Mais c'est vrai que, voilà, on a quand même voulu faire un lieu chouette. Moi, j'ai été aidée par une de mes amies sur toute la partie déco et aménagement intérieur. Et ouais, du coup, le lieu est chouette, quoi. Ouais.
Et après, c'est peut-être aussi que, plutôt que de dire, bah voilà, c'est telle ou telle marque, en fait, vous allez valoriser le fait que, bah, ce soit, la personne elle-même qui l'est transformée ou réparée, ou que ce soit une fringue en fait qui n'existe pas ailleurs, ou en fait le curseur de valeur et de motivation pour l'achat ne va pas être le même, quoi.
Ouais. Après, je pense qu'effectivement le cadre joue beaucoup. Les gens rentrent, ils n'ont pas l'impression de rentrer dans une ressourcerie, une friperie, parce que c'est joli, c'est clean, etc. Et puis c'est vrai qu'ensuite on a une sélection de vêtements pas cher et qui est très chouette. C'est vrai que, alors nous on prend tout ce que les gens nous donnent. On n'est pas du tout écrément, peu importe l'état, on prend vraiment tout. Mais c'est vrai que quand on regarde là, on a un an d'activité. On valorise 75% en interne et il y a 50% qu'on va revendre et 10% qu'on va donner. Donc ça veut dire que les gens qui nous apportent des choses nous apportent globalement des choses très chouettes. Et donc, ce qui fait qu'effectivement, on propose aussi des vêtements qui sont pas chers et qui sont chouettes. sur la question aussi, on a essayé de casser peut-être un peu cette image de la seconde main vieillotte, justement en utilisant les réseaux sociaux, notamment Instagram, en faisant des looks. On a aussi voilà, toute une communication autour d'un jeu qu'au départ on a fait en interne qui s'appelle Just Repeat. Comme on avait plein de matières textiles disponibles, enfin, on a entouré de textiles, de tissus, de vêtements de seconde main, etc., certains nous ont évoqué des portraits célèbres, et donc on s'est mis un peu à parodier. Ça avait commencé, je crois, avec la jeune fille à la perle. On avait un tissu jaune et bleu, etc. Et Khadija avait fait, bon, bah, la jeune fille à la perle, on l'avait pris en photo, on l'avait mis sur Instagram. Et en fait, ensuite, on a commencé à se lancer ce défi d'essayer de parodier des portraits célèbres. Et donc, de temps en temps, on publie sur Instagram ces portraits-là un peu décalés, un peu parodiques. Et je pense que c'est l'idée aussi derrière ça, c'est de contribuer à changer un peu l'image du réemploi de la seconde main.
Ouais, donc c'est reprendre aussi les codes, en tout cas ceux qui fonctionnent et qui ne sont pas à l'encontre de notre éthique et potentiellement du futur de notre société, mais reprendre ces codes-là qui fonctionnent et s'inscrire là-dedans pour montrer que c'est pas antinomique et que réemploi ne veut pas dire déchet, ne veut pas dire
complètement.
Et du coup, moi je me demandais comment les gens, alors là on est peut-être plus dans le concret ou j'en sais rien, mais comment les gens se débrouillent à la textilerie quand il s'agit de coudre, ce côté bricole, toi, c'est quelque chose que t'avais en héritage familial, mais que t'as commencé à développer petit à petit. Comment les gens se débrouillent, parce que on dit beaucoup qu'on a perdu l'apprentissage et le côté faire et penser et réfléchir avec les mains. Donc moi, je me demande, est-ce que c'est quelque chose qui finalement est caché et que les gens reprennent vite ? Est-ce que
Je pense qu'après, il y a des gens qui ont plus ou moins des facilités et surtout de la patience. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour coudre, il faut être un minimum patient. Après, Clémence, qui est notre prof de couture, pourrait mieux répondre que moi à cette question, puisque c'est elle qui donne les cours. Globalement, c'est une super pédagogue. Alors en plus, elle a une exigence un peu haute couture, parce qu'elle a appris, elle a été formée aux méthodes haute couture, mais après, elle a aussi une adaptabilité, donc qui fait qu'elle s'adapte aussi en fonction des motivations des personnes et puis de ce qu'ils ont envie de donner et faire. En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que tout le monde est capable de réparer, de recoudre un bouton, de réparer un trou et de faire un ourlet. Ça, c'est sûr.
Et tu penses que ce côté fait main, fait maison, enfin, j'interviewais du coup Jean Terlon qui est cuisinier, et lui, il disait, selon moi, la clé de l'anti-gaspi, la clé du zéro déchet et la clé aussi du responsable, c'est le fait maison. Donc, est-ce que tu le rejoins sur ce côté? Parce que bon, pour la cuisine, ça nous parle, a priori. Ouais. Mais sur ce côté, pour pouvoir s'assurer que toutes les ressources, également, s'assurer qu'on valorise et autres, il faut un moment qu'on en revienne à ce côté fait maison et ce côté... Ça, c'est quelque chose que tu partages aussi?
En tout cas, moi, ce que je crois, c'est que le fait de faire à un moment, de se confronter au faire, c'est un moyen de prendre conscience de la valeur des choses. Après, je comprends que les personnes n'aient pas forcément envie et le temps de se faire toute leur garde-robe parce que ça prend beaucoup de temps. Donc, mais en tout cas, je suis certaine que c'est un outil de prise de conscience et ensuite de changement de comportement par rapport à sa consommation. Donc après, certains auront envie de se lancer, de faire tout eux-mêmes. Après, on peut pas faire tout eux-mêmes. Il y a des interdépendances, etc. Mais voilà, donc c'est un outil de prise de conscience, de développement de la capacité d'action, puis aussi de compréhension, parce que on fait, donc potentiellement on peut être intéressé sur la manière dont les choses sont faites. Enfin, voilà. Donc ça c'est sûr, je suis certaine.
Donc c'est un peu le côté il faut vivre pour le croire, quoi. C'est finalement fait, tant que tu n'as pas vu, tant que tu l'as pas vécu. Ouais, ouais. Donc quelqu'un qui finalement, alors ça rejoint un peu la question que je voulais te poser, mais quelqu'un qui est à fond dans le fast fashion, qui est pas forcément sensible aux enjeux environnementaux, quoique conscient. Le moment, enfin, pour l'aider à ce que ça fasse tilt, il faudrait lui dire, écoute, fabrique toi-même ton pantalon ou ton sac ou ton t-shirt ou répare-le toi-même. Et puis, peut-être qu'à ce moment-là, tu te rendras mieux compte.
Je pense que ça peut faire partie le côté, voilà, je vis l'expérience. Puis ensuite, l'idée, c'est aussi de lui donner des informations un peu concrètes sur comment ça se passe aujourd'hui et les impacts négatifs. Alors après, c'est compliqué parce que ça peut être très vite culpabilisant. On peut pas mettre le blâme sur quelqu'un qui va acheter des fringues parce que c'est parce qu'il a, enfin là, c'est pas cher et qu'il a envie de se faire plaisir. Donc, moi, je suis pas non plus pour culpabiliser le consommateur. C'est d'ailleurs trop souvent ce que les producteurs veulent faire. Ouais. Et c'est vraiment, je trouve ça assez ignoble d'ailleurs. Ouais. Mais donc, voilà. Mais c'est vrai que le fait de faire plus de donner les informations, en essayant d'être le moins culpabilisant possible, mais en même temps, et le moins alarmiste, mais en même temps, il faut l'être. Donc, c'est difficile parfois de trouver le dosage, peuvent, voilà, aider aux prises de conscience. Et aussi, bah, en proposant des solutions. Voilà. Et qui peuvent être aussi adaptés parce que aux différents budgets et aux différentes motivations. Donc par exemple la solution tu coûtes tes vêtements tous tes vêtements c'est pas forcément possible pour tout le monde quoi. Donc c'est pour ça que si je trouve qu'il y a vraiment un truc à faire avec développer la consommation de seconde main, de réemploi, enfin parce que tous ces vêtements ils sont là, ils existent, donc il faut bien en faire quelque chose, ils sont en bon état, et donc d'aider à la circulation et si possible locale de tous ces trésors textiles, voilà, pour moi c'est vraiment une des missions que je prends le plus à cœur.
Donc du coup l'avenir de la filière selon toi ce serait en revenir à quelque chose de local et ce serait le réemploi en fait.
Je crois qu'il y a et ce que je trouve chouette, c'est que oui, il y a le réemploi. Après, je trouve ça aussi chouette qu'il y ait de la création, qu'il y ait de la production. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose à faire autour du réemploi de tissus en fait en rouleau, parce que il y a toute cette manne qui est un peu disséminée un peu partout en France et bien sûr à l'étranger. Et des créateurs pourraient s'en saisir pour produire, mais à partir de matières des déjà produites. Donc je pense qu'il y a vraiment cette création là à aider, à structurer. Le réemploi, oui, évidemment, ouais. Ouais.
Et du coup, quelle sera la place des grosses structures là-dedans? Est-ce qu'elles ont une place ou pas? Ou peut-être t'as pas d'avis sur la question?
Ça m'est difficile pour moi là de répondre comme ça là-dessus. En fait, ce qui est certain, c'est que les gros acheteurs de coton, H&M, enfin des structures de fast fashion, donc qui ont potentiellement le pouvoir de changer les choses, si par exemple achètent que du coton bio plutôt que du coton, voilà. Mais le problème, c'est aussi le modèle économique de ces structures qui sont fondées sur du volume. Des coûts de production aberrants. Donc, tant que ce modèle-là ne change pas, ce modèle-là sur lequel ils fondent leur réussite et leurs bénéfices, c'est un petit peu difficile, je trouve.
En tout cas, le côté, ce serait sur le modèle économique principalement aussi dans un premier temps. Il y a plein de choses à faire, mais.
Ouais.
En tout cas, ça c'est un des gros enjeux.
Je pense que le gros enjeu c'est d'aller dans la sobriété. Ils sont pas du tout, ils vont pas vers là. C'est aux antipodes de leurs ambitions économiques. Donc.
Ok. Ça marche.
Peut-être qu'il y en a qui devront se casser la gueule, quoi. Je sais pas.
Ok. et donc du coup pour finir là, quel est ton rêve le plus fou? Alors aussi bien, alors ça peut être à propos de la textilerie, ça peut être sur ton rôle à jouer dans la transformation de la filière ou dans l'accès. À des fringues sympas, et à un lieu qui promeut et qui facilite le lien social. Quel est ton rêve le plus fou
C'est marrant,
Dans les 6 mois, on va pas dire dans les 20 ans, parce que 6 mois.
Non, mais moi, vraiment, en fait, mon rêve le plus fou, ce serait, et j'espère qu'il est réaliste, c'est vraiment de pérenniser la textilerie, et puis à un moment de pouvoir, moi, vaquer à d'autres projets, alors plus ou moins en lien avec le textile et en restant sur la textilerie, mais voilà, de pérenniser ce projet-là, que les salariés travaillent dans des bonnes conditions, enfin voilà, que ce soit là, cette pérennisation.
Ok. Super.
C'est pas du tout
ambitieux. Je veux dire autre chose.
Non, mais je sais pas trop comment le dire, parce qu'en plus, c'est vrai, c'est bon.
Si c'est ton rêve, c'est ton rêve. Franchement.
Non, mais disons qu'effectivement, là, l'objectif de cette année, c'est vraiment de pérenniser l'activité.
Et puis, à la limite, de la pérenniser pour pouvoir aller un peu semer un peu de.
Ouais, moi, et après, moi, je pense que j'aimerais peut-être
d'autres choses
ailleurs,
effectivement.
Ouais.
Ok, top.
Voilà.
Du coup, le petit mot de la fin, un conseil aussi bien pour ceux qui veulent se lancer que pour potentiellement tes amis qui n'ont pas encore franchi le cap de la reconversion professionnelle.
Un conseil.
Sur ce côté liberté, tu vois, t'évoquais la liberté.
Non, en fait, ce qui a été... J'ai eu une période quand même de flottement de un an et demi En gros, j'ai quitté mon job fin 2015. Pendant 5-6 mois, je savais pas très bien où j'allais aller professionnellement. Et puis, j'ai quand même pris ce temps qui pouvait être un peu... Enfin, tout ce temps-là qui était un peu vertigineux, justement pour explorer des choses, pour rencontrer des choses, tout en ne sachant pas forcément très bien où j'allais. Et en fait, tout ce que j'ai fait a servi... Et toute cette exploration a conduit à la textilerie et à quelque chose qui existe et qui est beau. Donc finalement, je pense que ces périodes de flottement, elles sont intéressantes et il faut finalement essayer d'en profiter, même si ça peut être anxiogène.
Ok, super. Voilà. Très bien.
je sais pas si c'était très positif.
C'est très bien. Super, merci beaucoup. Est-ce que, juste avant de finir... est-ce que tu pourrais juste nous dire un peu si on veut, enfin si les auditeurs veulent te retrouver, veulent te contacter, veulent visiter la textilerie, juste les 2-3 infos de contact. Ouais.
Alors la textilerie, c'est 22 rue du Château-Landon. On est ouvert du lundi au samedi de 11h à 19h30. Moi, j'y suis en général tous les jours. Donc voilà, donc venez quand vous voulez.
Super. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt.
Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'à la fin.
Partagez-le autour de vous et notez-le 5 étoiles sur iTunes pour le diffuser auprès du plus grand nombre. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet épisode, notre invité ou nos services, contactez-nous par mail à hello@circulab.com.
C'était Justine Laurent et Brieux Saffré pour le podcast Activer l'économie circulaire. À bientôt pour un prochain épisode.